Merci d'être là pour la 7e séance du séminaire de la chaire d'études méditerranéennes du LabExMed, pour une séance qui s'intitule « Mobilité et espace de détention en Méditerranée ». Alors, ce séminaire donc porte sur une dimension très sensible de la question de la démigration et une dynamique assez fulgurante, on peut dire, autour des migrations, dans la mesure où finalement cette détention est assez récente. C'est une pratique qui n'a finalement qu'une trentaine d'années, mais qui s'est propagée d'une manière justement fulgurante dans de nombreux États et qui est maintenant, qui a été encadrée par le droit et qui aujourd'hui est plus ou moins encadrée par le droit. Donc l'autre dynamique importante, et qu'au-delà de l'aspect comparatif qui va ressortir de cette séance, c'est que nos intervenants nous montreront comment la nature de la détention et ces modalités ont évolué au cours des 10 ou 20 dernières années, ou même encore plus récemment, avec des autorités et des acteurs impliqués multiples, que ce soit en Europe ou en Libye, ainsi que des espaces de détention difficilement identifiables, définissables et finalement mouvants. Alors le séminaire reçoit aujourd'hui deux chercheurs italiens, Antonio Morone qui est historien, qui est professeur d'histoire africaine au département des sciences politiques et sociales de l'université de Pavie, en Italie. Il enseigne l'histoire coloniale et postcoloniale, et ses principales recherches portent sur l'histoire sociale et l'anthropologie culturelle de la Somalie et de la Libye contemporaine. Et nous recevons également Martina Tazzioli, qui est connue ici à la MMSH, puisqu'elle était rattachée au LabExMed. Elle est politiste et elle est aujourd'hui rattachée à la Swansea University, au Royaume-Uni. Elle a beaucoup écrit sur les dynamiques autour des mobilités, y compris ces espaces mouvants de détention en Tunisie et également en Europe. Alors nous allons commencer par la présentation d'Antonio Morone, sachant que les deux présentations seront en anglais. Cette première présentation porte sur « Detention, Containment Policies and Sub-Saharan Migrants in Libya ».
Merci Delphine pour l'invitation. I'm very glad to be here and to share my knowledge with you all. Yes, basically the topic, my presentation is dealing with the sub-Saharan migrants in Libya. And the period that I cover during my presentation is range from 1990s until 2014. Up to 2014, not because the situation in Libya or the issue of migrants in Libya is solved after the 2014, but basically for a personal reason, because after the 2014 I don't have the chance to get the access to the field, and so my presentation basically is dealing with primary sources that I was able to collect in Libya since 2008 up to 2014, and maybe in the future, if I will lucky, I will be back in Libya. But so up to now, I will stop basically mostly on 2014. So the beginning, I think that is very well known. So Libya has become one of the main destination country for sub-Saharan migrants, for sub-Saharan worker during the 1990s and, of course, during the 2000s. There was also a lot of migrants from other Arab countries like Egypt or Tunisia, but once again my angle, my perspective of research is dealing mostly with sub-Saharan migrants. The reason for those migration are multiple reasons. Of course, the instability in many African countries, and instability, conflict, but also the fast-growing Libyan economy that was attracting a lot of sub-Saharan migrants in Libya, and also the political change the strong political change in Gaddafi foreign policy from pan-Arabism to pan-Africanism. Just to mention very quickly, in 1998, Gaddafi was promoting the creation of the community of Sahel and Saharan states, and then in 2002, Gaddafi was one of the main promoters of the African Union. But those organization was intended to create an area, a space of free market and free movement. And really, Libya was opening the southern border to the sub-Saharan migrants. Not for chance, in the same year, in 2002, Gaddafi celebrated the Libyan Development Plan using African manpower. Just a few minutes about the numbers. During late 1990s, early 2000, Libyan population is around 6-7 million peoples. 6-7 million people. We have in Libya about 10% of the population are regular migrants, and then we have a lot of irregular migrants. It's very difficult to assess the real figure of the irregular migrants, maybe 1 million, someone who is telling about 2 million, maybe in the middle is the reality. But so the point is that there is a very massive migration from sub-Saharan country, mostly from West Africa, Nigeria, Ghana, Senegal, but also Mali, and Niger, of course, and also from Eastern Africa, so Horn of Africa, Ethiopia, Somalia, and Eritrea, and also Sudan. The point is that in this year, you cannot compare the numbers of sub-Saharan migrants in Libya with the number of sub-Saharan migrants landing in Italy. You know that in 2008, the arrival from Libyan coastline were about 35,000 people, in comparison with thousands and thousands of migrants in Libya. The point is that there is a strong change between the reality and the representation of Libya. Reality is that Libya is basically a country of destination. The representation of Libya was that was intended to promote this idea of Libya like a sort of corridor between sub-Saharan Africa and Europe. This representation was not just a sort of casuality, but was a strategy that Gaddafi was precisely setting up in order to bargain a political play with Italy and Europe. The deal was very clear. So Gaddafi was ready, or so was able, to manage, control the migration across the Mediterranean Sea. And in exchange, Italy and Europe were able to support the Gaddafi recognition in the international arena. Gaddafi's Libya comes from a period of strong isolation during the 1980s, And so the new Libya of the last period of Gaddafi was so committed in open the market and to have a completely change in comparison with the past history of the regime. And the relationship with Italy and Europe was so important for Libyan regime in order to promote his new political orientation and the recognition in the international arena. The outcome on the side of migrants was basically the externalization, securitization of the Italian and European southern border, and a lot of policies of containment, but not just containment, because we have containment and we have detention and we have also deportation policies. And of course, deportation is not the same than containment. And I think that a side effect was also the increasing of racism and intolerance against sub-Saharan migrants, against black migrants in Libya. Yes, of course, the relationship, so the Italian Libyan relations during the 2000 was intended to shape international cooperation on security and police. There was an agreement for readmission, but also there was this, this sort of advanced policy of containment that was the so-called pushback policy. After the sign of the Italian-Libyan treaty of friendship, partnership and cooperation in 2008, Italy was able to jointly patrolling the Libyan coastline, and they were able to stop the migrants on the sea and to leading back the migrants to the Libyan coastline. In reality, the pushback strategy is a complex strategy. So the pushing backs is just the first stage. The second stage is the detention of migrants in some detention camp in Libya. And the third step is the deportation of those migrants from Libya towards their own countries, or mostly towards other countries, for example, Niger. The point was that the first and second step were working very well, were working well from the point of view of the Italian and Libyan cooperation, but the last step, deportation, was not working well, because usually migrants, they stay in the Libyan jail, and there is not a great commitment from the Libyan government, from Gaddafi regime, to accomplish this program of final deportation. Why? But in my opinion, because of the good relations between Gaddafi regime and many African countries that are the home countries of many migrants. And second point, migrants, they still important for the Libyan economy, and they also are fueling a sort of circle of exploitation, because if you are not able to be deported abroad, you have a simple option: or you stay in the jail, or you have money to pay a ransom or a bribe to be freed. So this is another important point in the circle of migration. Corruption is, of course, one of the main points in the circle of Libyan the Libyan circle of migration. Of course, Italy and Europe, they tried to manage the issue of human rights of migrants, but they were not able to do that, because when Italy was trying to say that the responsibility to assess the human rights of migrants was on the side of the Libyan government, Gaddafi in actuality, immediately closed down the office of the international organization for the human rights in Libya. And of course, we have to mention that later on, in 2012, Italy was condemned by the European Court for the Human Rights for this strategy, for this action of pushing back the migrants on the basis of principle of non-refoulement. I would like just to add some words about the perspective of the ordinary Libyans, because I think that are very interesting. Made a short comparison between ordinary Libyans and ordinary Italians or other European citizens, because there is some research, some papers that are underlying the similarity of perception, representation of sub-Saharan migrants in Libya in comparison with Italy or other European countries. So like in Italy, in Libya, ordinary people are representing sub-Saharan migrants in terms of people who are still in work, they are criminals, they are spreading disease, and above all, they are people who are Africanizing Libya. Of course, we have to mention that the national identity of Libya, since the independence in 1951, was based strongly on Islamic identity. Of course, during the King Idris period, not of course a general identity or general belonging to Islam, so the Sanusi order Islam. And then during the period of Gaddafi, the idea of Libya that was promoted by the Gaddafi regime was based on Islam again, but also on the Arab or pan-Arab identity. And so this idea that a mass of black African people coming in Libya is powerful, put in question the identity, the Arab identity of Libya. And also, of course, we have to stress the point that historically Libya, just the population of Libya, is composed from many black Africans. So we have black people in Libya, we have black Libyans. But the point is that the representation in terms of Arabness and whiteness. Just last point on this topic. Yes, of course, Libya is a post-colonial country, is a post-colonial state, and Italy was fighting for more than 20 years for get Libya, for impose Italian rule on Libya. But the other point is that Libya is also a post-slavery society. Slavery was an important shape of Libyan society up to the middle of the last century, and so you know the legacy of the slavery is still working in Libya, and it's so common to find in a city like Tripoli a hierarchy that is not simple, a hierarchy by different skills or different working position, but it's also a hierarchy that is you know, is very linked to the color of the skin and to the some cultural and post-racist conceptualization of the relationship between Libyans and the others. For example, so usually the Arabs are in the main position, the Libyans are in the main position, and then there is other Arabs that are working in the middle position, the black Africans are at the bottom of the of this hierarchy. Very quickly, we can say that in Gaddafi Libya, so we of course the migrants are supplying very cheap labor for the Libyan economy. They represented a powerful leverage in Libyan relation with Italy, and they also offered a convenient distraction from international dissatisfaction with the regime. What's happened in 2011 when Libya when there was the uprising in Libya and then the civil war? But in my opinion, there is a lot of continuity. Libyan economy is still growing very fast until the summer 2014, when in actuality the conflict in Libya was changing a lot because there was a sort of, we can say, a new war. Also, the sub-Saharan migrants are still traveling to Libya, looking mostly for job. And Libya, we can say, is still mainly a country of destination. On the other side, there is a lot of continuity also from the also in the relationship between Italy, Europe, and the new or former Libyan authorities. Italy was so committed in recovering the former system of control and monitoring of migrants across the Mediterranean Sea, this Italian commitment was more and more became also a European commitment. But also there is some changes after the 2011. So there is the exploitation, detention, deportation of migrants became more and more evident. There was also an increasing criminalization of migration in close connection with the civil war. It also, another change is that also Libyans became migrants. Migrants or IDPs, refugees, depend on the situation. The Italian commitment to recover the control of the Mediterranean space led Italy to sign two agreements with the new Libyan authority, the first one in February 2012 and the second one just a couple of months ago in January 2017. Basically, the idea is still the same, cooperation on security and police, and this idea to control, to stop the departure from the Libyan coastline. why Italy was obliged to sign two agreements. Because of the instability of the country. Of course, the first agreement was signed with some Libyan authority that are not still in power today, and Italy need a new agreement. There is any difference between those agreements? Yes, because the agreement of the 2000, the last one, the 2017 agreement is very close to the agreement of 2008. So the idea, not the idea, but so the practice is to start again with the pushback strategy. And in the last few weeks, the Libyan coastline was involved in many action to stop the activity of smuggling across the Mediterranean Sea. Italy was not only able to sign an agreement and to promote the control of the coastline. Italy was also able and involved in again the detention and deportation policies in Libya, in the Libyan territory. According to the IOM, just in the 2012 and 13, about 25,000 people were deported from Libya, basically towards Niger, but also some people was deported, for example, in Eritrea. And all we know that if some people were deported in Eritrea, they are deported directly to the jail in Eritrea, because it's a crime in Eritrea to escape from the country because they are subject to the military service. Italy was also involved in monitoring some detention camps in Libya. It's very difficult to assess the degree of Italian involvement in those activities, but also in my field, I find that many people was able to tell me that some carabinieri, some Italian police, was monitoring some detention camps. It's difficult to say for do what. Libya, but in any case, so Libya is still a big problem, and Italy and Europe, they know very well that the Libyan crisis is not ready to be solved. The instability in Libya is still very widespread. And the idea at this point of Italy and Europe, in my opinion, is that Europe, more than Italy at this point, is very committed in deploying those containment policies in other African countries southwards, for example, in Nigeria, in Sudan, of course, and also in Ethiopia and Eritrea. And there is this idea of replicate the containment policies from Libya to other contexts, to other countries. The deal is still more or less the same. Those countries are ready to control the movement of people, and in exchange they have recognition, international recognition, and money and international cooperation. This is a little bit different in comparison with Libya, because Gaddafi Libya doesn't need money. Libya was during the Gaddafi time quite rich country. Gaddafi's Libya had a very strong and powerful program of international cooperation, and during the 2000, Gaddafi's Libya was counterbalanced the international cooperation, for example, of Chinese international cooperation, or also the program of France or United States or United Kingdom. So basically, Libya was needing international recognition. In those cases, Ethiopia, Eritrea, or Sudan, for example, they need both. They need international recognition. You just imagine Eritrea is possibly the last country completely isolated from the world, and also the Sudan of Bashir is need a lot of international recognition, but they also need international cooperation. Last point, the criminalization of migration. So during the conflict, of course, the smugglers has a great opportunity to smuggle in migrants in a very quick and easy way, and of course also the network of smuggling was increasing a lot. But the last point is that also the status of migrants was changing, because there is a sort of increasing overlapping between the status of regular migrant and the status of irregular migrants. So during the Gaddafi Libya, if you are working, if you are papers, you cannot be jailed, basically. Could be some exception, but so basically, if you are rooted inside the Libyan society, you cannot be jailed. After the 2011, the situation was changing, because also people, sub-Saharan Africans who are the papers, maybe people who are residing in Libya since 5 or 10 years, they are risking to be jailed just because they was regarded as a sort of pocket money, that you can jail the people and asking for a bribe. Any hope? In conclusion, I would like just to address this experience that is relatively new of human corridor that was promoted in 2000. In 2016 in Syria through Lebanon, and now is opening another corridor towards Ethiopia in 2017. The human corridor was based on an agreement between the Ministry of Italian Foreign Affairs, the Ministry of Italian Internal or Home Affairs, and then private sponsors. That was basically Sant'Egidio, Tavola Vardese, Conferenza Episcopale Italiana, that are all religious institutions. I think that the experiment of human corridor is very important just to prove that the containment policies are not the only solution. So there is other good practices. And for example, the human corridor could be one. This idea it could be very powerful. Very powerful more for very powerful in the Italian society and for the Italian politicians, maybe. The point is that, okay, that could be a good practice, a good response for the human corridor, but there is also many problems, in my opinion, in the in Africa or in Lebanon, because when you open a human corridor, you are selecting a lot of the migrants. I think that the Ethiopian case is very clear, so it's very relevant. If Ethiopia now is becoming the starting point for the corridor, you are selecting in Ethiopia many Somalis, Eritreans, and South Sudanese people who are possibly entitled to take the asylum or protection in Italy. Okay. But the point is that this, doing that, you are saying that Ethiopia is a good country, so it's a safe country. That is not the reality. In Ethiopia, there is emergency law since the October 2016. There was many people who are in jail, and other, unfortunately, that are died in the riots against the Ethiopian government, especially in Adana district, Nazareth in Amharic language. A lot of Oromo people that was not only jailed and killed, but a lot of those people was leaving the country, for example, take rescue in Somaliland. This is a paradox, because Somaliland usually is a country who produce migrants, not is a country of destination. But so this is changing again. So if you consider Ethiopia as a safe state, you are selecting a lot the reality, and you are not ready to recognize that also Ethiopia is involved in the regional crises that are producing migration, and usually at the end you are covering the responsibility of the Ethiopian government in generating those influx of migration, and also you are covering the responsibility of the Ethiopian government in relation to the human rights, for example, of Oromo people. That's it. Thanks a lot.
Merci beaucoup, Antonio, pour cette présentation qui a, je pense, dont un des intérêts importants et de montrer cette continuité avec le passé récent. Donc de dépasser justement cette image très médiatisée que l'on a actuellement de la Libye, qui aurait versé vers quelque chose d'absolument exceptionnel, alors qu'effectivement c'est absolument intéressant et important de rappeler cette continuité. J'aurai plein de questions sans doute. Tout à l'heure, je me permets de parler français, puisque je sais que vous comprenez tous les deux, et que vous parlez aussi. D'autres questions tout à l'heure, peut-être pour aller même au-delà du passé récent. Mais il y a deux autres points que je voudrais souligner de ta présentation aussi, qui me paraissent particulièrement importants. C'est donc une continuité, d'accord, mais tu montres bien une accentuation à la fois de l'importance de cette frontière euro-africaine et qui passe justement en Libye, et parallèlement, accentuation de la criminalisation, les deux étant bien sûr liés. Et autre élément qu'on peut particulièrement apprécier, c'est cette remise en cause du stéréotype du state collapse, de l'État qui ne serait plus l'État qui aurait disparu, car là aussi, tu l'as bien montré, des autorités reprennent le contrôle des frontières et des migrations. Mais j'ajouterai, et ça rejoindra des questions peut-être plus tard, c'est quand même grâce à cette idée d'État non existant que l'accord, le dernier accord Italie-Libye, a pu être annulé par la Cour de Tripoli. Donc ça, c'est un élément intéressant sur lequel on pourra revenir peut-être tout à l'heure. Mais avant cela, nous allons écouter Martina Tazzoli, dont la présentation s'intitule « Containment Beyond Detention, the Hotspot System and Disrupted Migration Movements Across Europe ».
Martina. Okay. Merci beaucoup, Delphine, pour l'invitation. Et donc, je vais parler du système hotspot en Grèce et en Italie. Et ça, ça fait partie de ma recherche, des recherches ethnographiques que j'ai fait en 2015, en 2016, en Grèce et en Italie du Sud. Et l'hypothèse de recherche, c'est que plutôt que garder aux hotspots comme des prisons, il faut élargir la perspective au niveau de ce que j'appelle containment beyond detention. So now I switch to English. And the presentation concerns a hotspot conceived as flexible choke points of mobility disruption. So this is the way in which I define hotspot, and looks at the form of containment beyond detention that the hotspot approach has generated. Containment beyond detention refers to border tactics of mobility disruption, diversion, and deceleration, which take place also beyond detention measures and detention defenses of detention centers. This involves situating hotspots within the broader spatial processes and economies that characterize the government of mobility and refuse to hinge the analysis simply on hotspot, presenting this latter as carceral spaces. So there is also an engagement in this article that I recently written with my friend Glenda Garelli, with the carceral geography literature and with the island studies literature, challenging many of their theoretical assumptions. So by arguing that in order to understand the effects of containment, we cannot focus the attention exclusively on the measure of detention and on these spaces as fixed spaces of blockage and detentive practices. So I start with a vignette from the border zone of Ventimiglia. So Ventimiglia, at the Italian-French border, as you know, is the closest Italian cities to the French-Italian borders. August 10, 2016, 400 migrants are forcefully removed from the hosting center run by the Red Cross in Ventimiglia to the hotspot of Taranto in southern Italy. Other forced transfers to the Taranto hotspot took place from Como, the Italian city located at the border with Switzerland, where between summer and autumn 2016, migrants ended up blocked due to the closure of the Swiss border and to operation of pushback to Italy carried out by Swiss authorities. Hotspot facilities have partly changed their function. This is the reason why I wanted to show this image of migrants taken by force from Ventimiglia to Taranto, presented in the European Migration Agenda as frontline infrastructures for the full and quick identification of incoming migrants through enhanced mechanism of intragovernmental control. Italian hotspots have recently also been used for redistributing migrants already present on the national territory, and particularly for removing their unruly mobility and unruly presence from this highly visible zone. This new evolution of the hotspot complicate the territoriality and sovereignty of hotspot and call for investigating their actually existing geographies beyond the governmental vision of EU institutions and the accounts of the governmental actors involved in their implementation and management. So, in a nutshell, I'm interested here in investigating heterogeneous forms of containment that are not visible from within sites of detention and that are not limited to detentive and repressive strategies. And I'm also interested in looking at various forms of entrapment, legal, existential, and spatial entrapment that result from mobility control and channeling mechanisms like the hotspot. So I will start by saying that this idea of containment beyond detention starts from the assumption that containment refers more broadly to practices and measures enforced by state and non-state actors with the purpose of diverting and accelerating mobility, but not necessarily of stopping mobility. And this is connected to a work that I'm currently doing on mobility as a technology of government. So when migrants are moved by force, not necessarily through official expulsions, deportation, but also through internal force transfer or by inducing migrants to move because they are evicted from some border zone. So let's start from Lampedusa Island, the southernmost tip of Europe, the first hotspot to be opened in September 2015 with the idea that it would work as a model for all other hotspots. So, and as you know, there are at the moment 4 hotspots in Italy, and there are hotspots on the Greek island of Lesbos, Leros, Kos, Samos, and Chios. The first year of the Lampedusa hotspot was a time of experimentation with the flexible structure and multiple mandates of the hotspot. The Lampedusa hotspot is located in a hollow in the central part of the Lampedusa island on military premises in the Contrada Imbriacola facilities that has served several functions over the years, from first aid center to hosting center, now hotspot. Upon disembarkation in the small harbor of Lampedusa, migrants are moved to the hotspot where the Italian police and Frontex officials perform those identification procedures that are the defining features of the hotspot, since hotspots are presented precisely as heightened mechanism of border surveillance and technologies for filtering mixed flows at entry. So more than technology to enhance securities, however, identification procedure performed in Lampedusa a preventative illegalization strategies and often result in form of punitive entrapment for some migrants on the island. So first, the preventative illegalization via screening procedures. As part of the Lampedusa hotspot procedure at its outset, all incoming migrants received an Italian Home Office questionnaire, so a paper, bearing the question, what is the reason for your being in Italy? With 4 options to choose from: poverty, family reunification, work, or other reason. War and persecution until March 2016, so this is important. Since March 2016, this has changed, and because of many denunciation and protests made by NGOs and activists and even few politicians, there is now the possibility for migrants to tick the box asylum. But until March 2016, so for the first 6 months after the official opening of the hotspot, war and persecution were not explicitly listed options and have to fall under the rubric other. Police officials often fill in the document for migrants, ticking the box that would decide their destiny, either protected refugees versus destitute and undocumented economic migrants, simply based on migrants' country of birth, and only allowing Eritreans, Syrians, and Iraqis, those eligible for the EU relocation programs, to start the asylum procedures. All the others, including large numbers of people coming from West Africa countries, were instead legalized on the spot. They were excluded from protection mechanism and classified as undocumented economic migrants. And now there are so-called North African migrants who are still excluded from the process. So there is still this exclusionary criteria at stake. What happened to these legalized people during the first months of operation of the hotspot? So those who have been denied of the very possibility to claim asylum, they were officially asked to leave the country within 7 days through an expulsion order called 7-day decrees and asked to leave the national territories from the frontier of Rome, Fiumicino Airport, and practically pay for their own removal. So actually, this obviously didn't happen. So what this mechanism has produced is a multiplication of illegalized asylum seekers, of rejected asylum seekers, that is now that we are seeing now even in France and in other countries. So there is this increased rate of rejected asylum seekers, of illegalized migrants. Thus, the hotspot mechanism produced a large population of illegalized people on the national territory and their destitute presence in Italy or across Europe. And here I think it's important also to stress the what I call in some other articles I wrote, the accelerated temporality of control. So there is this tendency that is particularly glaring in the new law that has been enforced in Italy a few weeks ago, legge Minniti, so-called, that established the need to accelerate the times and the steps for of the asylum procedure, denying also the possibility for the migrants to appeal against a negative decision about their asylum claim. And there is this pressure on fastening the asylum procedure that, however, doesn't mean that migrants are less entrapped and stranded on the Italian territory. On the contrary, there is this speeding up of legal procedure against and not in opposition, but coexisting with an indefinite strandedness and an existential conundrums of the migrants who remain illegally on the territory or who actually sometimes also if on the on the paper their procedure should be fastened process, actually they wait indefinitely up to 1 year and a half. But this accelerated temporality of control is also what characterize, so not only the Italian law, but also the European definition of the hotspot, so to quickly partition the migrants. The Lampedusa hotspot has also been performing a sort of punitive entrapment of migrants on the island for those who refuse to be fingerprinted, knowing that this procedure would imply relinquishing the freedom to decide where to claim asylum in Europe. While this refusal jams the swift screening system of the hotspot frontline, the special outcome onto migrant lives is that those who refuse to be fingerprinted ended up stuck on the island and trapped there for non-compliance with the hotspot regulation. So on the one hand, there is this accelerated temporality, but on the other, since migrants, and to the as long as migrants refuse, they remain blocked. For instance, a group of 250 migrants, mainly Eritreans, who arrived at Lampedusa on the 5th of November 2015, refused to be fingerprinted and organized a protest on the 17th of December of the same year, claiming their rights to choose where to seek asylum in Europe. As the protest clearly showed, migrants who resist fingerprinting procedure at the Lampedusa hotspot are caught in a special trap. They don't have access to the protection system and are indefinitely detained on Lampedusa, far away not only from their aspire to refuge, but also from the mainland. 10 of the 250 migrants who refused to be fingerprinted were still on Lampedusa when I went there for the second time after 3 months since their arrival, while the others were transferred to Sicily, to Agrigento, having finally given their fingerprints out of extortion. So they have been basically fingerprinted by force also with the use of electricity. And just a parenthesis, I met by chance these migrants here in Marseille 1 month later, and these migrants had these signs of torture on their bodies. This is something that has been that is also included in the recent report by Amnesty International about the tortures made by the Italian police on migrants. And however, coming from the UK, at least academically, I want to. There is also this strong denunciation now going on against Italy, but in this case, it's also important to stress that without justifying at all the violence made by the Italian police, but at the same time, there has been a radical shift in the police procedures, Italian police procedures, because Italy is like Greece, so these two countries are under pressure about. For complying to with the international, with the, sorry, the European standards. And I will come back at the very end of the presentation about this migrant refusal to give the fingerprints, but also migrant refusal to accept the criteria of the relocation, because the two things are related. And in fact, many of these migrants, For instance, this group of migrants who refused to give the fingerprints were Eritreans. So in principle, they were eligible for the relocation. So now I want to focus briefly on Greece. So the status of Lesbos Island radically changed since the inception of the hotspot and during its first year of operation. Given its proximity to the Turkish coastline, Lesbos was a landing place for people trying crossing the Mediterranean into Europe. This function persisted also during the first months of operation of the Lesbos hotspot, called Moria, when migrants were processed there at differential speed, depending on their nationalities, and generally let go to the Greek mainland. This transit point, a function of the Lesbos hotspot, has now ended, and Lesbos has become a hotspot island with an explicit containment and border enforcement function. The transformation in the force and mechanism of capture that directly affect migrant lives in Lesbos is one of the main and most visible outcomes of the EU-Turkey agreement and of the EU effort to stop migrant movements across the Mediterranean Sea. The Moria hotspot in Lesbos opened in October 2015, so soon after the first Italian hotspot. For the first 5 months of operation of the Moria hotspot, identification procedures were a preliminary step that would grant migrants a permit to legally reside in Greece for either 6 months for the Syrian nationals only, or for 1 month for all other migrant nationals. This authorization to temporarily stay in Greece would allow them to get a ferry ticket to Athens and hence move on with their journey to European countries along the Balkan corridors. During this initial time period, migrant fingerprints taken inside the Moria hotspot were not transmitted to the Eurodac database. Yet, a differential treatment targeting Tunisians, Algerians and Moroccans only was put into place already in November 2015. Labeled as North African migrants by Greek authorities, these migrants were subjected to immediate detention. After the instant and blur category of North Africans, Pakistani migrants were the second group excluded from free transit to the mainland and from the channels of the asylum with a decision that dates back to the beginning of 2016. Pakistani migrants usually refuse to claim asylum, since they are aware that they are likely to be rejected and that asking for international protection corresponds to a form of humanitarian containment. However, due to the lack of detention capacity in Lesbos, most of them were not identified by the Greek police, and at the same time, a first spatial hierarchization was established between those migrants that UNHCR consider vulnerable subjects that are sent to the Karatepe camp, a camp which is close to Moria, where they can go in and out during the day, living in containers, and all other migrants who had to stay inside the hotspot of Moria. Vulnerability and nationality cannot, in fact, be fully disentangled from one another. So the most of the people I met in Karatepe were Syrians, apart from 5 or 6 Palestinians. It can be argued, Syrian families, it can be argued that the former is always inflected by the latter, so vulnerability and nationalities, and change according to the geographical and political context. The transformation of Lesbos from a dock and go site to a space of differential containment is the outcome of two fundamental political restructuring operations that occur in the span of just a few months, from November 2016 to March 2016. The first one is what I call the trickle-down effect produced by the progressive border closure, as we know, along the Balkan route, starting from the north, Slovenia, and moving on southward to Macedonia. So in November 2015, on the 19th of November, Macedonian authorities established an exclusionary criterion for accessing the country based on nationality. Only migrants coming from Iraq, Syria and Afghanistan could enter Macedonia. This exclusionary border access was followed by Slovenian border closure in early March 2016, which triggered north-to-south border restrictions, so from Slovenia to Croatia to Serbia, and then ended up in the final closure of the Domani border, so between Greece and Macedonia. The second one, as already mentioned, consists in the implementation of the EU-Turkey deal signed on March 18 of 2016. However, so this can give an image of how, of Lesbos as a prison island. But I think that far from being sealed space or zone of total detention, all the governmental spaces for identifying, containing and selecting migrants, including hotspots, are actually crisscrossed by multiple movements and formed by differential circuits and channels of mobility. For instance, migrants are differently managed on the island depending on their nationalities, as I mentioned above. Moreover, as some were allowed to leave the island relatively quickly, for instance, some migrants are sent to Athens where they can wait in order to their response of their asylum claim. Others remain blocked there for months. So there are migrants now in Lesbos who are still there since the first time I went there, so in April 2015. So migrants who have remained blocked on the island 1 year. The hotspot, in fact, is not a monolithic space simply established for enclosing mobility. The hotspot system works by multiplying migration profiles and differentiating migrants' juridical patterns through process of individualization and finally dividing up migrant groups. So hotspots are procedures for channeling mobility and for differentiating migrant multiplicities more than detaining them as an indistinct group. In this reorganization of the space of Lesbos, it was not only the temporality of control of the hotspot that was reshuffled. So this, the fact that from a space of transit, mobility was more and more controlled in Moria, although with this differential and hierarchical way of regulating migration. Together with that, the number of channels, steps and categories for regaining control over migrants' mobility also multiplied. The logistic of the hotspot system in Greece is in fact sustained by the multiplication of temporal borders as a series of deadlines that migrants need to comply with in order to be able to claim asylum. So I don't spend time here, but there were strict deadlines last summer for them in order to be able to fit within certain categories, and also in order to claim for the relocation, to access the relocation, and time lapses that ultimately function as measure for further restricting the access to relocation procedure. Algerians, Morocco, Tunisian, and later on also Pakistanis became targets for arrest and were prevented from leaving the island, even after they obtained the one-month temporary permit. Few people were actually apprehended, and the legalization of Pakistani migrants was managed rather through a different type of twofold trap. First, the trap of asylum, and secondly, the special trap. That is, those who decided to go to the hotspot to register and to be identified in order to become eligible to claim asylum were immediately detained inside the facility. In this respect, the center started to operate as a closed facility for Pakistanis only. Migrants from other nationalities were de facto trapped there due to the geographical boundaries of the island and the denial of the special permit needed to travel to Athens by ferry. From a space of transit, the Hellenic Peninsula has become a site of containment where migrants are partitioned and divided. Similarly to Lesbos, many transit zones in Greece, like for instance the Terminal 1 of Piraeus Port that now has been evicted, were transformed into space of control, identification, and indefinite way for migrants in the span of a few months, so from space of transit to space of control. And I was there precisely when this transformation was going on, so last summer. Unlike Lampedusa, where the management of migrants landing is quite centralized and migrants are taken always to the same port, in Lesbos, the establishment of the hotspot and the change that occurred after its opening had a considerable impact on the spatial economy and geographies of migrant arrivals. Yet the redefinition of the geographies of migrant sea journeys to Lesbos cannot be entirely grasped if we narrow the focus to the Greek shores. That is to say, the spatial economies of migration connected to the hotspot should be analyzed together with the strategy of mobility containment put into place as a result of the EU-Turkey deal, and that had been enacted primarily by the Turkish Coast Guard. The number of migrants' arrival in Lesbos, for instance, dropped from 1,400 to 70 per day in the span of a few weeks in March 2016. In turn, this produced transformation in the geographies and economy of migrant crossing. So due to the constant patrolling of the Turkish Coast Guard, migrants tended to arrive in the southern part of the island and no longer in the northern one, that was the closest to the Turkish shore, but even the most controlled one. Simultaneously, because of the increased difficulty for migrants to reach Lesbos without being pushed back, the economy of crossing has been readapted by smugglers to the changed situation. As the volunteers from the Spanish rescue organization Proactiva told me, smugglers in Turkey now sell a sort of three attempts ticket for $1,000 that can be used three times by the same migrants to go to Lesbos, given the high percentage of possibility to be intercepted at sea and return to Turkey. So now I want to conclude with a section on what I call from moving the attention from the hotspot as enclosed sites to a geography of channels. Conceived as site of mobility disruption, the hotspot represent a complex set of infrastructures, identification procedure, logistical nodes for managing migrants landing that has been put into place for slowing down and retaking control over migration movement. Yet, if we look at this system through the lexicon of the channels, so the channel is a very important spatial metaphor in the language of humanitarian actors, if you think about UNHCR or the humanitarian corridor, and there is also this debate between corridor and channels, but still there is a the two are both used by humanitarian actors and by authorities, it can be argued that its bottleneck function should be seen not as a carceral space, but as a slowing down exclusionary filter from where institutional channels depart. So these channels I'm talking about are those opened up by the relocation scheme launched in the European Migration Agenda in simultaneity with the hotspot approach. So the two cannot be analyzed separately, right? By using the terminology of channels, entails bringing attention to the speciality that grow out of migration governmentality and the mechanism through which migrants are moved. So not only through which migrants move, but are moved. And this is something that has been stressed in the literature, for instance, by Xiang Biao, an anthropologist who is working on how to rethink migration through logistics and focusing on this. The fact that migrants do not only move, but are moved, and we need to bring more attention to this aspect. So to the material logistic and to the legal procedure through which states manage to regain control over migration movements and to transfer there. This is the perspective I engage in here, studying the logistical infrastructure that is in place inside and also around the hotspot, together with the institutional channel for refugees relocation, instituted by the EU as a spot twin measure, so relocation and hotspot. By speaking of channels, I point to an overlooked aspect in analysis of the logistics. So there is a growing literature now on migration and logistics, but I think that this literature in part failed to account for the exclusionary nature, as you also mentioned, of channels. So channels do not only hold mobility, do not only allow mobility, they do not simply enable mobility to happen in a material sense. Channels also steer and contain movements. So this is for instance, if you think about Deborah Cowan, and there are many critical geographers currently working on logistics, they tend to produce this image of a very functionalist global mobility of trade and people. To put it more directly, channels regulate the containment and deceleration of flows. They do not simply serve as the material infrastructure of circulation. In this regard, it is important to remember that hotspots have been officially presented by the European Union as a mechanism for sharing the burden of the refugees across Europe by moving many of them in a regulated and legal way from the places of first arrival to the other member states. In reality, as we know, the slowness of the relocation process and the reluctance on the part of many EU countries to take asylum seekers from Italy and Greece, together with the closure of the Balkan corridor, have amplified the role of Greece and Italy as space frontiers of mobility containment, outspots where migrants are blocked at the European front line and circulation across the European space is contained. So it is important to mention that not only other member states refuse to take migrants, but that also migrants frequently refuse to enter the relocation procedure. This is something that was for me particularly visible when I did interviews in Greece last summer, even as they were considered eligible for it by US institutions. So also those migrant nationals who can access the relocation scheme. Indeed, what the European Union promoted as a kind of safe route towards northern European countries for migrants made blatant the impossibility for them to choose where to go and claim asylum. In other words, the safety of the exclusionary channel of relocation has represented the material obstruction of migrant claims' right of choice. Protection appeared to some migrants as a synonym of capture, that result in being moved and being channeled by state policy. So at the European Asylum Support Office headquarters in Athens, an officer I interviewed revealed to me that, so when the relocation started, it had been presented to migrants as a way for them to continue their journey safely. Yet, the majority of the migrants preferred to do that in an autonomous way, so they refused the relocation. Only after realizing that they were stranded in Greece because of the EU-Turkey deal, with no alternatives and because of the closure of the Balkan routes, Syrians opted in mass for the relocation. So this is for me an important point because I think that, and it's a point that I'm developing in a common paper with Glenda Garelli and Nicolas De Genova about this connection and that remain under-theorized in the political debate and also in the literature between asylum and freedom. So the fact that it seems to me that the current political challenge in rethinking the asylum is precisely in accounting for this this claim of right to choose where to go and where to claim asylum that migrants themselves are raising. So the fact that asylum seekers are precisely also those people who do not accept to be transferred from one country to another one. And so I'm asking what are, for us, the theoretical and political challenges of rethinking these two terms together without dismissing this aspect and by saying, especially in a moment of crisis, if you if you can obtain even temporary protection, you should not complain, right? So recently at the European Commission, this migrant refusal of the relocation has been presented as a scandal, right? So migrant refusing to be channeled in the relocation procedure. So this is the main point that for me stems from this analysis and ethnography of the hotspots. So starting from what is not established by the EU documents and is not established even by humanitarian actors who try to find solutions, legal solution or to make policy recommendations. So as also Antonio said before, these humanitarian corridors are for sure a good experiment. At the same time, there is this unbearable claim that migrants not only raise and make, but really enact, refusing being fingerprinted and refusing to be part of the relocation system. And just last conclusion, so just to summarize my point, instead of narrowing the analysis to the institutional spaces of migration governmentality defined by states, we need to move beyond the fences of the hotspot and map the specialities and the forms of containment beyond detention that are connected to the establishment of the US hotspot approach to the migration crisis.
Merci beaucoup, Martina. Là encore une présentation qui nous permet vraiment de dépasser des stéréotypes sur ce contrôle des frontières et puis sur l'idée même de détention. Je pense que voilà la première chose, la chose la plus importante que tu mets en avant dans ton papier, c'est de nous permettre de dépasser l'idée donc d'une rétention ou d'une détention qui serait simplement entre quatre murs mais aussi d'envisager la détention au travers du containment, au travers du piège dans des espaces, dans des couloirs, dans des canaux. Et comme tu le dis bien, parce que, et c'est la deuxième grande réflexion à mon sens particulièrement importante de ta présentation, sur le rôle de la détention, qui contrairement à ce qu'on pourrait évidemment penser, donc ne cherche pas forcément à mettre fin à la mobilité ou à se débarrasser des mobiles, mais au contraire, donc de la freiner, de la canaliser, de la contrôler avant tout. Et enfin, un troisième point que je voulais souligner, ce sont finalement les processus croissants d'irrégularisation qui découlent de cette volonté de rationaliser et de contrôler la migration et les politiques migratoires. Et finalement, lorsqu'on croise vos deux présentations, on trouve énormément de points de réflexion qui se répondent et qui s'enrichissent. Je pense notamment à... alors, on pourrait y revenir avec Antonio, parce que finalement, tu n'as pas énormément développé cet aspect qui est la dispersion de la détention. Hein, là aussi, Martina, tu n'en as pas parlé parce que tu as parlé aussi de beaucoup d'autres choses. Vous aviez chacun énormément à présenter. Mais aussi, cette multiplicité des autorités, on le sait pour les hotspots, puisqu'il y a à la fois des agences européennes, les autorités nationales, des acteurs privés qui sont impliqués. En Libye, autorités reconnues ou non, milices, groupes divers. Donc, on a... une dispersion géographique donc de la détention au travers d'espaces qui sont mouvants en parallèle, une dispersion et une multiplicité des acteurs qui détiennent ou qui sont impliqués dans cette détention. L'autre élément qui se répond dans vos deux présentations, c'est dans les deux cas, la détention ne vise pas forcément à mettre fin à la mobilité. Antonio l'avait déjà souligné. On n'expulse pas forcément justement les personnes qui sont détenues. On les garde pour les rendre plus vulnérables, pour les réutiliser, etc. Également, là où se répondent vos présentations sur la sélection. Alors, sélection des individus, bien sûr, en fonction de la nationalité, en fonction, en Libye... de leur couleur, de ce qu'on imagine de leur place, et sélection des territoires, avec bien sûr cette notion de pays, là aussi qui va être très fluctuante, cette notion de pays sûr, où on a normalement une définition juridique qui a été faite au niveau européen, où finalement chaque État doit décider, normalement juridiquement, enfin en tout cas administrativement, quel pays est sûr pour lui, mais au final, où on a des désaccords et où parfois seulement une pratique du pays sûr. Et c'est notamment le cas, comme tu le dis, tu l'as dit Antonio, vis-à-vis de l'Éthiopie, qui bien sûr ne peut pas être considérée juridiquement et politiquement comme un pays sûr, mais qui l'est dans la pratique finalement au travers de ce couloir humanitaire. Deux derniers points. Dans les deux cas aussi, dans les deux zones, dans les deux espaces, ou plutôt dans ce grand espace, l'accentuation de phénomènes qui préexistaient. L'irrégularisation des demandeurs d'asile, ça c'était déjà une pratique depuis les années 90. On a une accentuation très récente qui s'associe à la criminalisation, bien sûr, y compris la criminalisation de ces demandeurs d'asile. Et enfin... la liberté, ça c'était ta conclusion Martina, mais c'est aussi en filigrane de celle d'Antonio, la liberté et la détermination des migrants au-delà de tous ces mécanismes. Puisque même si ces personnes qui bougent n'ont pas forcément un plan très structuré au départ, ça peut se faire par étapes, ce sont des personnes qui vont, par exemple, pour la Libye, continuer à y aller malgré tous les obstacles qu'on y met. Et puis, comme tu l'as bien dit, Martina, des personnes qui voudraient être protégées, mais pas forcément dans un pays où elles n'ont aucun lien, où elles ne pensent avoir aucun espoir. Voilà, je ne sais pas si vous voulez peut-être chacun tout de suite réagir ou poser des questions à la présentation de l'autre. Parce que moi, j'ai des questions sinon aussi.
Moi, j'ai une question pour Antonio. Juste une clarification. Tu as parlé du New Pushback Strategy et je suis intéressée. Ça consiste en quoi? Parce qu'il y a deux jours, il y a eu ce pushback dans les eaux internationales de la part de la Libye qui a été vu comme le premier pushback.
L'idée que c'est nouvelle parce qu'il a changé le contexte politique. Que dans le vieux cas de le pushback, il y a une. The pushback strategy was based on a clear agreement between Italy and Libya, and so we can say that Gaddafi Libya was a non-democratic government, so was a stable government, so there is a law and there is order. In nowadays Libya, so the context is more and more shifting and very... is very fragmented, and this is the point we are discussing about that during the lunch. Is new because the outcome, the goal is still the same, but the instrument could be some of difference because, for example, first point, in 2008 there is an agreement between the Italian. So the agreement was passed by the Italian parliament and by the Gaddafi leadership. Today, the solution was, for example, not to sign another agreement at the level of state, but so it's just a sort of memorandum between the... So, you know, a level that don't need the consensus of the Italian parliament, for example. And the other point that was stressed in Delphine during the lunch is that Italy was supporting the activity of the Libyan Coast Guard, but it seems to me that it is less involved than in the past, probably because there is some fear to be again targeted by the international law against Italy and against another possible sentence of the international.
Now I was curious if you think court. That there is also something new at the level of national waters, international waters in the practice of pushback. So if you, because the pushback that took place a few days ago has been presented like the first pushback taking place in international waters.
Mais tu es en train de parler pas de des gardes-côtes libyens qui ont intercepté
oui.
Sea-Watch.
Oui, c'est ça.
Qui ont intercepté un bateau des migrants qui était...
D'une ONG qui était en train d'être secourue par une ONG
oui.
On parle la même chose de
oui,
la
oui,
même chose.
Qui était en train d'être
oui.
Mais après, les migrants ont été
revenus. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans la condamnation de l'Italie en 2012, ce qui a été clairement condamné, c'est que La responsabilité italienne a été clairement identifiée puisque c'était un bateau italien qui avait pris à son bord les migrants et qui avait transféré... En plus, ils se sont déplacés. Ils sont allés vers les Libyens et ont transféré les migrants sur un bateau libyen. Donc ainsi, il n'y avait pas de questionnement sur la responsabilité. C'était bien les Italiens qui avaient renvoyé. Et c'est pour ça, bon, c'était un questionnement.
Non,
on a
mais
eu
c'est,
cette
c'est
discussion,
ça, parce qu'aujourd'hui c'est différent. Parce que le bateau, c'est italien, mais il a été donné au gouvernement libyen. Et oui, c'est différent.
Donc, est-ce qu'on peut parler des pushbacks à niveau légal ?
Alors, je ne pense pas. Okay. Parce que c'était un bateau de garde-côte italien. Enfin, c'était. Je ne me souviens plus quel type d'autorité, mais ils étaient clairement liés à l'État italien. Là, c'est une ONG, donc on ne peut pas invoquer... Alors, on pourrait éventuellement faire quand même une action. Juridiquement, on peut toujours quand même. Mais à mon sens, ce serait difficile de rattacher ça aux autorités libyennes et du coup de les taxer, de les accuser de refoulement. Et je pense que justement, c'est quelque chose qui peut être utilisé par l'Italie. Parce que là, c'est clairement, par contre, à partir de Rome qu'on a contacté les Libyens pour qu'ils viennent.
Oui. Donc, c'est opération de secours.
Donc, on peut très bien utiliser subrepticement l'action des ONG qui, du coup, maintenant, les navires italiens, donc officiels, n'ont plus besoin de, finalement d'aller si près des côtes de la mer territoriale libyenne. Il suffit de laisser les ONG y aller et d'appeler finalement les gardes-côtes libyens pour qu'ils viennent les rechercher. Alors, je ne sais pas si ça durerait longtemps, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être utilisé aujourd'hui pour ne pas engager la responsabilité
de l'État. Oui, c'est la limite entre search and rescue et interception en mer.
Oui. Non, c'est une question finalement d'acteurs, de jouer sur les acteurs. Parce qu'on n'est pas à la limite de ça, on est toujours à la limite de ça. Quand les Italiens... parce que les navires italiens, même qui contrôlent, doivent faire du search and rescue. Oui. Donc on est toujours à cette frontière-là. Oui. Mais là, c'est la question de jouer sur... utiliser d'autres acteurs qui sont présents, finalement.
Mais c'est vrai, certainement, qu'un autre élément de changement avec le passé, que dans le passé, il y a sept réseaux qui travaillent très bien dans le pushback. Aujourd'hui, il y a aussi le réseau de le smuggling qui travaille plus bien que dans le passé.
Okay.
C'est comme une compétition dans les deux directions qu'il n'y a pas dans le passé. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, le réseau de le smuggling c'est plus organisé que dans le passé. Et je crois aussi que peut-être aussi qu'il y a des contacts directs entre l'NGO et les...
Tu penses ça
parce dans les idées de cette accusation italienne, que c'est pas une chose comme une mafia générale, c'est seulement que les personnes qu'ils vont aménager le rescue, ils sont en contact con le persone che vanno a fare le passeport perché de mon avis peut être normal dans le sens que le passeur, dans le sens que les NGO, elles sont sûres que le passeur il va à porter les personnes. C'est plus économique, plus facile, plus sûr d'avoir des contacts et
oui, mais c'est s'engager. Pour ça qu'on a aussi dit que voilà, la présence des ONG facilitait le travail des trafiquants qui n'ont plus besoin d'aller très loin. Puisqu'ils savent qu'il y a les ONG. Mais là, on voit que ça peut être aussi à l'inverse, les États qui profitent eux aussi de la présence des ONG pour faire le pushback. C'est vraiment...
C'est très difficile de définir la vérité, non?
Parce que mais je pense que les deux, parce que c'est très complexe, c'est une instrumentalisation des différents.
C'est ça, que c'est sûrement il y a la compétition entre les deux directions, les deux logiques. Des passeurs et des containers.
Alors moi, je voudrais te poser aussi une question encore sur Italie-Libye. Tu as parlé d'un point qui est très sensible parce que ça revient tout le temps, mais finalement, on n'a jamais de preuves. C'est la question de la participation des Européens et en l'occurrence des Italiens dans la construction et le monitoring, en plus tu as dit, des centres de détention. Parce que c'est une accusation qui est particulièrement grave, justement en termes de responsabilité, ça pourrait engager beaucoup, mais finalement, on a l'impression parfois que ce ne sont que des bruits, parce que ça fait très longtemps qu'on en parle. Et c'est vrai que pourtant, on trouve dans des textes, y compris dans des textes européens, ce projet-là, mais on ne sait pas si...
Bon, mon idée, c'est que qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est de pousser les Libyens. Parce que bien sûr que toutes les opérations de déportation, ils sont faites par les Libyens. Mais bien sûr que les Italiens, ils vont avoir et éventuellement pousser à faire vite. Quand je suis été à Rasgrabouli, qui est une des sept ports de départ, il y a sept Libyens qui m'a conté un peu des choses. Il m'a dit oui, il y a des carabinieri, comme la police italienne, qu'il vienne, il a dit, à visiter les centres de détention où je travaille, qui est un centre presse de Rascarabulli. Il y a deux possibilités. Ou les Italiens ils vont chercher quelques personnes spécifiques, mais bon, je ne crois pas que c'est ça. L'autre possibilité, c'est qu'ils vont faire comme un reporting de quelque espace. Parce que aussi, toutes les opérations de... Parce que une autre chose, que dans une conférence en Tunisie, il y a un représentant du ministère des Affaires étrangères libyen qui a fait une communication sur les activités de ce département pour contre la for combating the illegal migration de le ministère libyen. Et il a dit que, bien sûr, les Libyens sont en train de déporter personnes, surtout en Niger, parce que c'est la chose plus facile. Et c'est pour ça, je crois qu'en Niger, l'Union européenne est en train de... il a ouvert un autre camp de détention. Parce que les personnes qui vont au-delà des confins libyens, ils vont dans cet centre. Mais la question, c'est que cette représentant du ministère des Affaires étrangères libyen, il a dit aussi qu'il coûte très cher pour la Libye cette opération de déportation. Il coûte très cher. Et j'ai demandé, bon, voilà, et les argent que vous utilisez pour cette opération, où vous le trouvez, c'est un argent libyen? Il a répondu qu'il est libyen, mais il est aussi il vient aussi de la coopération internationale, etc. Je crois que les Italiens ou autres Européens n'ont pas une activité directe, mais bien sûr qu'il a une activité de contrôle de qu'est-ce que on pense que le Libyen doit faire. Mais bien sûr que c'est difficile.
Oui, d'impulsion, c'est sûr, d'influence. Donc ça, c'est sûr qu'il les pousse à détenir, ouais. Financer,
ouais. Ils vont
former.
Former, bien sûr. Oui, il y a une mission dans les bateaux italiens pour former cette...
Il y a une formation. De...
Sì.
Et sur cette dispersion des centres de...
c'est une grande question. Et c'est le limite de ma recherche. Non, c'est vrai, parce que j'ai travaillé au dehors de Tripoli. J'ai travaillé dans l'intérieur, dans le sud, dans les Nefusa, et dans la côte, Tripoli et à Rasgrabulli, Misurata. Et c'est seulement une petite partie de toute la complexité libyenne. Mais bien sûr qu'une autre ville clé dans l'immigration libyenne, c'est Zouara, bien sûr. Mais c'est très difficile de travailler à Zouara, parce que c'est probablement la ville où il y a le plus grand réseau de l'immigration irrégulière. Et bien sûr que c'est très... Bon, c'est peut-être dangereux de faire une enquête de terrain dans cette ville. Il y a, mais c'est une chose intéressante qu'à Zouara, il y a eu, je crois, pendant l'année 2015, une révolte d'une partie de la population contre cette personne qui va aménager les réseaux, parce que probablement ils vont à transformer complètement la ville. Il devient une hub pour tout le commerce illégal, pas seulement de les migrants, et
bon, c'est plus, il n'est pas plus la ville, une ville normale de la Libye, comme probablement une partie de la population, il est en train de vivre.
Et toi, Martina, tu avais fait un terrain dans les hotspots?
Oui, je ne suis pas entrée à Lesbos. Je suis entrée à l'hotspot de Chios. À Lesbos, c'est impossible. Parce que c'est pour les journalistes, pour les chercheurs, mais c'est plutôt facile parce que maintenant, les migrants peuvent sortir de l'hotspot pendant la journée et c'est visible. C'est comme Lampedusa. Donc, à Lampedusa, je suis entrée, mais un mois avant de la transformation en hotspot, et aussi à Pozzallo, un mois avant la transformation dans l'hotspot, parce que c'est impossible d'entrer en tant qu'hotspot. Tandis qu'à Chios et Samos, c'est plus informel de la gestion des hotspots par rapport à Lesbos. C'est complètement militarisé.
Là, est-ce que très récemment, parce que en quelle année tu es allé en
2015 avril 2016 et juillet 2016 aussi.
D'accord, donc c'est très récent.
Oui, en Italie, 2015, plus ou moins.
D'accord.
Et aussi 2016 à Lampedusa, parce que le spot de Lampedusa, c'est un peu différent des autres, c'est-à-dire les migrants arrivent à sortir pendant les jours de façon informelle et non officielle. Il y a une place où ils peuvent s'enfuir. Et la police, c'est ça. Donc c'est quelque chose pour diminuer la pression, non, pendant la pression sociale, la pression, je sais pas, parce qu'il y a les risques de révolte. Donc ils laissent les migrants sortir pendant la journée, parce que c'est nuit, donc c'est impossible pour de s'enfuir de l'île. Et non, mais je suis d'accord à propos de la politique de la dispersion. Et en fait, c'est, maintenant je suis en train de faire ce projet de. Ça s'appelle The Politics of Migrant Dispersal in France, qui c'est sur la politique.
Avec Calais, ceux qui sont.
Oui, sur la politique de la dispersion en France après l'évacuation, le démantèlement de la jungle de Calais. Et donc, cette politique de dispersion m'intéresse beaucoup parce que je vois vraiment une stratégie de la part des États, pas seulement de la France, mais aussi de l'Italie, de disperser les migrants.
Et du Maroc.
Et de, ouais.
Qui fait la même chose qu'en France. Qui parfois récupère les personnes qui sont à la frontière avec l'Espagne, avec des bus, comme l'a fait la France, et essaie de les mettre ailleurs dans plusieurs villes.
Et ça, c'est une stratégie qui a commencé au Royaume-Uni avant qu'en France et en Italie, donc dans les années 90. Et c'est une stratégie officielle du gouvernement anglais.
D'accord.
Et de disperser les demandeurs d'asile dans des petites villes. Mais je pense que donc cette stratégie a été analysée par des chercheuses en Angleterre, mais sans je pense une perspective politique, c'est-à-dire il y a toujours derrière, il me semble, au moins en France et en Italie, aussi cette question de diviser les multiplicités, les groupes de migrants quand ils sont dans des frontières critiques comme Ventimiglia, comme au Calais. Donc quand il y a aussi la possibilité qu'il y ait, les migrants forment une communauté autonome aussi, les espaces à Paris, à La Chapelle, donc où il y a des assemblements des migrants. Et donc, il y a cette nécessité de disperser pour gouverner les individus, mais aussi pour gouverner les groupes de migrants qui sont là-bas et pour empêcher la formation des groupes de migrants. Et il me semble que, parce que maintenant, la stratégie est très visible en France avec les CAO, mais c'est quelque chose qui, pour moi, vient de l'Italie au niveau institutionnel. Donc, en 2011, avec la proclamation de l'accoglienza diffusa, accueil diffusé, je pense, cette stratégie a été vue par l'Italie comme la solution à l'augmentation des arrivées en Italie des migrants de la Libye et de la Tunisie. Et donc, cette multiplication des petits centres, qui sont comme les CAO en France et qui ne sont pas sujettis à des standards. Donc, c'est-à-dire, ça passe n'importe quoi dans ces centres d'accueil pour les demandeurs d'asile parce que ça dépend vraiment de comment la coopérative qui gère les centres a la capacité ou la volonté managing the migrants. Et je vois quelque chose de similaire aussi en France. Et même, donc il y a cette stratégie officielle et il y a une stratégie plus informelle qui consiste à empêcher la formation des espaces migratoires comme à Ventimiglia, comme avec ces transferts forcés du nord au sud de l'Italie, donc de Ventimiglia à Taranto, qui ça coûte 5 000 euros chaque fois, chaque voyage. Et chaque semaine, il y a un bus de 20 000, les mardis après-midi, de 20 000 vers Taranto. Il y a des migrants que j'ai rencontrés à 20 000 qui ont fait les mêmes tours, les mêmes voyages, 5-6 fois. Donc, ils sont arrivés à Taranto et après, ils sont revenus avec les trains à 20 000. Et donc, il y a, oui, soit au niveau informel et aussi au niveau des stratégies du gouvernement, de l'État en France et en Italie. Mais aussi, oui, au Maroc. Mais en Europe, je pense que les premières a été l'Angleterre.
Très intéressant, parce qu'on ne pense pas assez au modèle britannique.
Non, mais c'est horrible, c'est un modèle.
Ah oui, oui.
Je ne sais pas si tu es d'accord, Martina, mais je pense aussi que ce système de reloquer les migrants dans ce petit centre, il a aussi développé un racisme diffusé, parce que dans les modèles passés, quand les migrants ils sont plus ou moins dans les grandes ou moyennes villes, beaucoup des Italiens ils vont à connaître la question des migrants, pas directement, mais indirectement. Aujourd'hui, aussi dans les petits villages, parce que l'Italie, vous savez qu'il n'y a pas les grandes villes en Italie. L'Italie, le paysage urbain de l'Italie, ce n'est pas des grandes villes. L'Italie, c'est des petites villes. Et aussi en compétition avec l'une ou l'autre, mais c'est vrai. Et l'immigration, dans ce contexte, il a diffusé des stéréotypes de racisme, d'intolérance contre les migrants.
C'est intéressant de le voir comme ça, parce qu'on pourrait se dire à l'inverse que justement de ne pas avoir concentré des grands nombres, ça a pu faire connaître un peu partout, justement de manière diffuse, l'étranger.
Mais il peut fonctionner s'il y a, parce qu'il n'y a pas en Italie, s'il y a une préparation de la ville, petite ville qu'il va accueillir la migration. Ce n'est pas possible d'envoyer dans une petite ville très périphérique, sur beaucoup de niveaux, un nouveau centre avec les migrants. Il va être un grand problème dans le managing.
Mais aussi en Tunisie, c'est plutôt la même chose. Après la fermeture du camp de Choucha, maintenant les autorités tunisiennes ne veulent plus quelque chose comme un camp de réfugiés. Donc ils font tout pour disperser les migrants partout.
Ah oui, parce qu'ils ne veulent plus de camp, d'accord.
Oui. Et ça, oui, c'est vraiment une position sur laquelle le gouvernement tunisien est très strict. Donc ils ne disent pas de camp en Tunisie. Et c'est ça que la pression de l'Union européenne, je pense, n'aura pas de succès. Parce que aussi au niveau des camps, pas seulement des détentions, mais pour les demandeurs d'asile. Et Choucha, c'était une expérience nouvelle pour la Tunisie, mais aussi d'un côté, ils ont dit que la Tunisie a accueilli, et donc il y a toute cette rhétorique aussi, c'est la vérité. Mais en même temps, c'était aussi un vrai coup au niveau économique. Et de toute façon, après un an, l'expérience de Choucha a commencé à devenir un problème politique. Parce que la présence des subsahariens, des Africains, comme ils les appellent, à la frontière libyenne, donc il y a eu des attaques racistes contre les migrants au camp de Choucha de la part des Tunisiens. Et donc, maintenant, il y a vraiment cette tactique de la dispersion. Ils sont complètement invisibilisés. Il y a encore 48 personnes à Choucha, maintenant, mais dans l'invisibilité.
Oui, c'est ça, un camp est visible. Et puis surtout s'il dure, il y a aussi la question de l'hospitalité qui est généralement là pour du temporaire, mais quand ça dure, après effectivement le racisme davantage se développe.
Ouais.
Mais je voulais revenir justement sur cette idée de racisme parce que tu parles de la Tunisie. Et toi, Antonio, tu as parlé dans ta présentation du racisme qui aurait été accentué finalement. Dans ta présentation, même tu insistes beaucoup, même plus que sur de l'accentuation, même une création.
Oui, c'est comme un process dans l'histoire que se va à réactualiser. En Libye, il y a cette dimension de le contraste entre les Noirs et l'Arabe dans l'histoire des longues périodes de la Libye. Et cette nouvelle migration, ils vont à...
c'est la juste réveiller.
C'est vont réveiller, c'est le même aussi de la côté du monde, côté d'historien aussi pour l'Italie. Le racisme en Italie, il est lié au passé colonial de l'Italie. Il est très lié au passé colonial. L'Italie, il a eu la législation raciale. Il a eu un régime de ségrégation raciale dans la colonie, presque le même de l'apartheid en South Africa. Et bon, cette hérédité...
Sur les territoires coloniaux.
Et aussi sur le territorial
italien, d'accord.
Sur le territoire italien, les personnes qui sont été discriminées pour la loi sont les juifs.
Oui.
Dans la colonie, sont bien sûr toutes les personnes, tous les sujets coloniaux. Bon, je crois que l'histoire, c'est une partie très importante de cette dimension actuelle. Et en Libye, de mon côté, il y a des recherches qui vont à démontrer que dans les années 80, il y a des populations libyennes noires, qui bien sûr sont libyennes, ils ont le passeport libyen, ils sont nés en Libye, ils ont en Libye de plus de générations, mais qu'ils vivent attachés, la Kabila, il y a la dimension sociale de la Kabila, de la famiglia, della gran famiglia. Il y a des populations noires libyennes qui sont attachées à des populations libyennes qui ne sont pas noires. Et c'est l'hérédité de la relation, mais c'est le même aussi dans le sud de la Tunisie.
Voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi
ce même
phénomène en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Et que d'ailleurs ces trois pays, enfin les sociétés civiles de ces trois pays, avaient lancé toute une campagne contre la discrimination raciale. Ne m'appelle pas Asie, ne m'appelle pas esclave, parce que c'est le nom qu'ils disent à entendre dans la rue. Ouais. Donc c'est effectivement ce même phénomène, et ça part d'associations de protection des migrants, mais qui ont inclus justement les nationaux noirs, plus foncés, disons, que les autres. Mais la Libye n'a pas été associée. Enfin, j'imagine que c'était par manque de lien entre les sociétés civiles libyennes et même tunisiennes.
La société civile en Libye.
Mais c'est intéressant ces changements que tu as soulignés. Donc, avec Gaddafi, il n'y avait pas beaucoup de problèmes pour les migrants qui étaient en train de travailler. Donc,
si tu as le papier.
Ok, parce que ça, c'est quand. J'ai parlé avec beaucoup de migrants subsahariens qui étaient au camp de Choucha et ils étaient très, très contents, énormément contents de la Libye. Ils disaient, ici c'est la galère en Tunisie, la galère au niveau métaphorique, c'est-à-dire c'est impossible de vivre en Tunisie. Au niveau bureaucratique, la Tunisie c'est le premier pays de l'Europe. Tandis qu'en Nord d'Afrique, la migration s'organise, en Libye c'est la jungle, mais en même temps, on n'était pas discriminés, ça c'était vraiment...
Non, ben c'est... En partie, c'est vrai, en Libye, dans les années de Gaddafi, tu peux travailler, tu vas trouver le travail avec facilité, tu vas à gagner beaucoup, parce que tu vas penser que dans les années 2000, je crois que tu peux prendre entre les 50 et les 100 dînerles bien pour une heure de travail. Et bah, c'est pas, c'est beaucoup, hein, parce que c'est entre le 25 et 50 euros. Bah, 50 euros, c'est plus ou moins que l'Italie.
Quelle université,
Mais à l'inverse, bon, y a ceux qui dénonçaient aujourd'hui, parce que vous avez sans doute entendu cette campagne aussi lancée par l'OIM, que l'esclavage, il y aurait des témoignages d'esclavage aujourd'hui en Libye. Donc ce qui est sans doute vrai, et ce qui va sans doute avec une accentuation justement de la criminalisation dont on parlait, mais finalement qui existait déjà aussi. C'est-à-dire que, comme vous venez de le dire tous les deux, il y avait, tous les témoignages disent, bon, les gens venaient en Libye, c'était simple, il y avait du travail, ils étaient bien payés, etc. En même temps, c'était la jungle, tout pouvait arriver, surtout quand on n'avait soit pas de papier, soit pas de réseau, parce que sinon, quand on était bien implanté, normalement, ça allait. Mais ça arrivait déjà d'être emprisonné, racketté, même de devoir travailler gratuitement. Donc, ce qui est aujourd'hui...
Oui, il a changé.
Ce qui continue, mais davantage finalement, qui est accentué, c'est-à-dire que c'est quand même une pratique, une mentalité, mais qui peut-être qui explose aujourd'hui ou qui est accentuée, qui se répand, je ne sais pas.
Non, mon idée, c'est que c'est comme le passage dans la mer. Il y a comme deux circuits.
De niveaux
différents. Et c'est vrai, si tu arrives en Libye avec le papier, tu vas dans le niveau où tu peux travailler sans beaucoup de problèmes. Si tu arrives dans l'autre niveau, peut-être plus difficile. Mais la vérité, c'est que dans les années de Gaddafi, beaucoup de migrants sont arrivés avec les papiers et après, en réponse de la politique de l'Italie et de l'Europe, Gaddafi l'a changé, non, la politique de visa. Et beaucoup de personnes sont devenues irrégulières et ils sont été dans le... Mais aussi cette question de la corruption en Libye, c'est normal, c'est pas seulement la migration pour toutes les choses, c'est une dimension constitutive de le travail en Libye. Et c'est pour ça que probablement c'est oui, il est un problème, mais pas. C'est comme une chose que tu vas considérer. Et tu vas. Je me rappelle beaucoup de personnes que j'ai rencontrées là-bas. Ils me disent bah, si, c'est vrai, je suis été dans une prison pour un mois, pour trois mois, pour une fois ou pour plus qu'une fois. Mais bon, je veux appuyer et c'est comme une petite. C'est comme si tu vas payer quelque chose pour travailler. Libye, tu ne vas pas payer, il n'y a pas de. Comment se dit
De taxes, de droits d'entrée.
Tu ne sais pas rien. Et pour les migrants, c'est comme que tu vas payer quelque chose. Mais aussi dans le contexte de la provenance de l'immigrant. Le contexte de la Nigeria ou d'autres pays de l'Afrique du Sud, la corruption c'est aussi une réalité très connue.
Mais donc ce changement est dû essentiellement au fait que l'Union européenne est en train de mettre pression.
Non, dans la politique de le visa. Oui, il a été une réponse à la... tu dis le changement de la politique de visa ou quoi?
Non, que maintenant les migrants sont mis en prison aussi s'ils ont des...
Non, maintenant, je m'arrête à 2014. Non, en 2014, bien sûr qu'il n'y a pas plus une autorité centrale. Et, oui, bien sûr, il y a des personnes qui sont capables de mettre des personnes en prison aussi s'il y a les documents, ma perché peut-être aussi che i documenti non sono più valabili, no? E il va dipendere d'une località o un'altra, c'è più frammentato.
Ah, no, non per le C'est pas un résultat des accords de 2012
non,
avec l'Italie.
Non, c'est une dimension libyenne.
Ah, ça. Ok. C'est pas la réponse à la pression de l'Italie.
Parce que
l'intérêt de la Libye, c'est encore d'avoir des migrants là-bas, non? Parce que tu as dit l'économie.
Oui, mais il y a beaucoup. Non, la question, c'est que si tu vas à garder une immigrante, je me rappelle, j'ai une histoire d'une personne qui vient de le Ghana. Il a été en Libye dans le début de l'an 2000. Il a été avec la famille. Il va faire aussi là une petite compagnie de construction, et il a été pris dans cet centre, mais avec tous les papiers, mais seulement parce que la personne il connaît, que cette personne il est riche, il est un migrant riche, il peut payer pour la... C'est un système qui n'est pas seulement sur le migrant, c'est plus diffusé en Libye, parce que aujourd'hui le premier danger en Libye, c'est pas le conflit, c'est cette criminalité très, très diffuse, que seulement il y a des personnes qui vont à faire ce travail. Ils vont prendre les Libyens riches, je sais pas la parole.
Tandis que l'augmentation des déportations est le résultat de l'accord avec...
Oui, oui, c'est ça, sì. Mais je crois que cette question de prendre les migrants pour avoir de la monnaie, c'est une chose qu'il est transversale dans la société libyenne. C'est le migrant, comme c'est le Libyen riche ou l'étranger, qui bien sûr, c'est le Libyen, ils sont très, très proches aussi à prendre les étrangers pour avoir des monnaies du gouvernement italien, je ne sais pas. Mais bien sûr qu'on fait en Libye pour faire des enquêtes plus précises.
Et tu disais que des Libyens arrivent donc maintenant en Italie?
Oui.
Il y a
des Libyens qui sont en train d'arriver en Italie par les bateaux, et je crois pour la crise économique. Ce sont des Libyens qui se sont trouvés dans cette crise économique, et ils viennent avec les bateaux, mais bien sûr que pour un Libyen c'est incroyable de rester dans un centre italien d'accueil. C'est pas possible avec le noir. Et c'est pour cette raison que normalement les Libyens ils ne restent pas dans les centres, ils vont peut-être au dans Libyen, ou peut-être aussi j'ai vu des personnes qui vont direct à l'ambassade de la Libye pour demander de rentrer en Libye, parce que non, il y a cette idée que l'Italie c'est un place où tu vas trouver le travail, toutes les choses dans un petit temps, mais c'est pas ici. Il y a aussi des Libyens qui sont dans les prisons parce qu'ils sont été accusés d'être le pilote, non, de le bateau. On connaît, non, que la définition de le pilote, le smuggler, c'est very tricky, non?
Cosa?
Tamam.
Bon, on va conclure ici. Merci beaucoup.
Merci à vous.